Ça fait 9 semaines que je suis à bord de l'Aquarius comme Communication Officer de l'association SOS Méditerranée. C'est une association européenne, une association civile. C'est une association fondée à la fois en France, en Allemagne et en Italie, qui donc opère en Méditerranée pour sauver des vies. Alors aujourd'hui, le bateau, l'Aquarius, qui est affrété par SOS Méditerranée, se retrouve le seul bateau humanitaire au large des côtes libyennes à patrouiller cette zone de sauvetage, cette zone où ont lieu la plupart du temps les naufrages et les arrivées de canots chargés de migrants en provenance de Libye. C'est une période très particulière, très délicate, parce que les arrivées continuent malgré l'arrivée de l'hiver, malgré les conditions météo pas toujours favorables, ce qui rend les opérations de sauvetage très délicates et ce qui apporte aussi des complications ultérieures, notamment le risque de nombreux cas d'hypothermie parmi les migrants et aussi les conditions météorologiques qui changent assez rapidement en Méditerranée en hiver. Risque de provoquer de très nombreux naufrages puisque les arrivées continuent, comme on le constate.
Vous parliez des conséquences du passage à la période hivernale. Alors, quelles sont ces conséquences sur l'afflux des migrants et sur votre travail à bord de l'Aquarius?
Là, au mois de novembre, notamment, on constate que il y a eu environ 13 000 personnes qui ont été secourues en mer. Alors évidemment, pas que par l'Aquarius, il y a aussi d'autres navires qui opèrent dans la zone, notamment la garde des côtes italienne, mais il y a aussi des navires commerciaux. Et puis, en novembre, il y avait encore plusieurs bateaux des autres ONG actives en Méditerranée. 13 000 personnes en novembre, ça veut dire 4 fois plus que l'an dernier au mois de novembre. Donc, les arrivée, on le constate, ne diminue pas. Les conditions hivernales rendent plus délicat le travail des sauveteurs parce que les conditions météo peuvent changer d'une heure à l'autre et notamment ce sont les vagues, la hauteur des vagues qui compliquent particulièrement le travail des sauveteurs parce que ça rend très difficile l'approche des embarcations en difficulté et aussi ces embarcations sont de plus en plus fragiles. On l'a constaté ces dernières semaines, des canots pneumatiques de couleur bleue ou de couleur noire qui sont de plus en plus fragiles, de plus en plus précaires, qui arrivent déjà dégonflés, dont le fond du canot, qui est une planche de bois, est souvent cassé. Donc il suffit d'une vague de même pas un mètre pour que l'eau entre dans le canot. Et là, c'est la tragédie assurée. Et une fois qu'il y a des personnes à l'eau, et cela rend le travail des sauveteurs très délicat parce que ces personnes embarquent à bord des canots, sont poussées dans ces canots par les trafiquants d'êtres humains en Libye. Sans même un gilet de sauvetage, ils n'ont aucun moyen donc de rester à flot une fois que l'eau est entrée dans le canot, ils sautent à l'eau et ils n'ont aucun moyen de rester à la surface et leur durée de survie est très courte, donc il faut aller très vite. Et puis il y a aussi la température de l'eau qui est un défi important en hiver puisque on craint de très nombreux cas d'hypothermie, ce qui rend aussi le travail des sauveteurs très délicat parce que les cas d'hypothermie, il faut les traiter très vite. À bord, nous avons un docteur, une équipe médicale. Cela suffit pour traiter quelques cas. Lorsqu'il y a des dizaines et des dizaines de cas, cela devient beaucoup plus compliqué et augmente évidemment le risque de nouvelles tragédies.
À la rencontre des embarcations de fortune, l'approche de l'Aquarius est-elle inattendue, est-elle inespérée pour les migrants ?
Quand l'Aquarius approche une embarcation en difficulté, on observe toujours beaucoup de panique dans ces embarcations en difficulté parce qu'elles sont évidemment surchargées. Sur les canots pneumatiques, il y a souvent entre 100, 120, même 140 personnes ces derniers jours qui sont embarquées à bord de ces canots, qui sont donc surchargées. Parfois, eh bien déjà, l'eau est entrée dans le canot. Il y a des fuites aussi de carburant, ce qui provoque des brûlures. Il y a énormément donc de panique à bord de ces bateaux. Alors, beaucoup de notre travail, c'est de justement contrôler un peu la foule, donc de faire une première approche, de bien expliquer que nous sommes des humanitaires, que nous ne sommes pas des gardes-côtes, que nous ne sommes pas des personnes qui allons leur faire du mal, parce qu'il faut savoir que ces personnes ont traversé un véritable enfer en Libye, qu'elles ont été kidnappées, rançonnées, qu'elles ont subi des violences, parfois des tortures. La plupart des femmes que nous secourons en mer ont été également violées et victimes d'abus au cours de leur séjour en Libye. Et donc, il y a énormément de panique, d'angoisse à bord de ces embarcations. Alors, il s'agit donc de les calmer, de les rassurer, de leur dire que nous sommes des humanitaires, que nous sommes là pour les aider, pour les sauver. Et évidemment, les premiers mots, lorsqu'ils mettent enfin le pied sur l'Aquarius, qu'on leur enlève leur gilet de sauvetage en leur souhaitant la bienvenue, leurs premiers mots, c'est merci, c'est des mots d'affection, merci de nous avoir sauvés, merci de nous considérer et de nous traiter comme des êtres humains. Ce sont toujours des témoignages assez poignants, même dans les premières minutes qui suivent le sauvetage, parce que ces gens ont vraiment frôlé la mort et ils le savent. Ce qu'on ressent surtout dans ces témoignages, c'est le besoin et l'envie de se sentir enfin en sécurité. Au final, ils ne parlent pas tant d'Europe, c'est pas forcément le rêve d'Europe qui les a amenés sur ce chemin, mais plutôt la fuite de quelque chose de pire. Et en l'occurrence, beaucoup de ces migrants, je dirais même la majorité, au final, fuient la situation en Libye, fuient les violences, les tortures, les traitements inhumains qu'ils ont subis en Libye. Alors évidemment, au départ, quand ils ont quitté leur pays. La plupart de ces migrants sont originaires d'Afrique de l'Ouest. C'est évidemment, oui, un rêve d'une vie meilleure qui les a poussés à partir, mais pas forcément d'une vie meilleure en Europe, peut-être dans un pays voisin ou peut-être en Libye. Et ils se retrouvent pris au piège en Libye où il n'y a plus de véritable gouvernement, il n'y a plus d'autorité. Les Africains de l'Ouest sont traités comme des marchandises, c'est ce qu'ils nous expliquent. Ils sont en permanence kidnappés, ils sont en permanence rançonnés. Et donc au final, c'est plutôt une fuite d'une situation terrible qu'ils ont entreprise en embarquant sur ces canaux. Le rêve d'Europe, au final, n'est pas la principale de leur motivation, en tout cas dans les récits, les premiers témoignages qu'ils nous livrent à bord, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils sont dans un état de traumatisme avancé par rapport à ce qu'ils viennent de vivre.
Une fois les migrants à bord de l'Aquarius, quel est votre rôle? Que devient-il? Et quel type de soutien apportez-vous?
Le rôle de SOS Méditerranée, c'est de sauver des vies en mer, donc d'appliquer cette obligation légale de ne pas laisser des personnes se noyer en mer, mais aussi cette obligation morale de sauver les personnes qui en ont besoin, puisque personne d'autre ne le fait. Ensuite, notre rôle à bord, c'est déjà de les faire sentir en sécurité, de leur assurer justement qu'ils sont enfin en sécurité, que nous sommes ici pour les aider, et donc les premiers soins sont prodigués. Il faut savoir que la plupart de ces migrants arrivent en guenille. Et ces guenilles sont complètement imbibées d'un mélange d'eau salée et d'essence, de carburant qui servait pour le moteur de leur canot. Et que ce mélange d'essence et d'eau de mer est très très dangereux parce qu'il provoque des brûlures conséquentes pour la peau. La peau ensuite s'arrache en lambeaux et c'est extrêmement dangereux. Donc la première chose à faire, eh bien, c'est qu'ils doivent se changer, ils doivent se laver, se savonner pour éviter ces brûlures. Ensuite, donc, on leur remet un kit de sauvetage dans lequel ils ont des habits secs, une couverture, l'essentiel, quelques biscuits énergétiques, une bouteille d'eau qui leur permet donc de se poser pendant les heures qui suivent le sauvetage. Et puis ensuite, notre rôle, c'est de les accompagner vers l'Europe, de les accompagner en Italie. Notre rôle s'arrête à partir du moment où ils débarquent donc sur le sol européen, en l'occurrence sur le sol italien.
Enfin, qu'en devient-il pour ces migrants, pour ces personnes, une fois que l'Aquarius a touché les terres italiennes?
À partir du moment où nous débarquons les personnes, nous les remettons entre les mains des autorités italiennes, et je dois dire que pour ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, ces personnes, ces migrants sont quand même traités avec beaucoup d'humanité par les autorités italiennes. Au moment du débarquement, il y a aussi beaucoup d'ONG qui sont présentes. Il y a l'OIM, il y a souvent Médecins Sans Frontières également, qui est notre partenaire à bord de l'Aquarius. Il y a un accompagnement psychologique. Il y a donc des ONG qui s'occupent d'assister les personnes qui sont victimes de trafic, notamment les femmes qui sont victimes d'un trafic d'êtres humains et qui sont destinées à finir dans les réseaux de prostitution. Grâce donc au travail des ONG, on parvient parfois à interrompre ce cercle infernal. Mais encore une fois, la mission de SOS Méditerranée s'arrête au moment du débarquement. Nous les saluons, nous leur souhaitons bon courage pour la suite et nous espérons, nous ne pouvons que formuler l'espoir que l'Europe leur réservera un avenir serein et en tout cas qu'elle saura les protéger. Chaque sauvetage est différent, chaque sauvetage est évidemment dramatique. Il faudrait pouvoir raconter les récits de ces personnes, les larmes de ceux qui viennent de perdre quelqu'un, de cette mère qui vient de voir son enfant se noyer sous ses yeux et qui n'a plus que ses larmes pour pleurer. Il faudrait raconter l'histoire de ce jeune homme, un mineur, qui pleure devant les toilettes parce que son ami s'est noyé et a disparu alors que c'était lui qui avait le plus d'espoir d'arriver vivant en Europe. Il faudrait raconter les prières, les hommages rendus par ces migrants à leurs compagnons d'infortune qui meurent sous nos yeux. Il faudrait raconter, par exemple, dimanche dernier, deux femmes sont mortes d'hypothermie devant nos yeux, et toujours le drame de la mort est le même que s'il s'agit de personnes en migration ou s'il s'agit d'un proche. Et à chaque fois, ces expériences sont traumatisantes pour l'équipage, sont traumatisantes aussi pour les migrants. Ce n'est pas une situation normale, c'est une situation à laquelle il faut apporter une solution. On ne peut pas accepter que le nombre de traversées augmente chaque année, chaque mois. On ne peut pas accepter que des dizaines de milliers de personnes continuent de tenter la traversée pendant les mois hivernaux, de braver ces dangers sans regarder le problème en face et sans essayer de chercher des solutions. Jusqu'à maintenant, la politique de dissuasion européenne ne porte aucun fruit, voire aggrave le problème. Et donc, il faut commencer à trouver des solutions pour ce problème. Les personnes qui fuient la Libye continueront de fuir la Libye, de fuir les violences, les traitements inhumains qu'elles subissent là-bas.